Vous écoutez France Culture.
Cœur de l'été, même à l'heure où le soleil est au zénith, en particulier en Méditerranée, des zones d'ombre subsistent autour de la grande table de France Culture. C'est ce qu'on appelle des énigmes, étymologiquement des paroles obscures. Mais ces énigmes n'ont qu'à bien se tenir, car à l'occasion de l'apparition du Nouvel Observateur, qui consacre cette semaine son dossier central aux grandes énigmes de l'art, la grande table s'entoure d'un éditeur et auteur de polar, d'une plasticienne qui a grandi parmi les squelettes, et d'un journaliste en goguette pour tenter de faire la lumière sur ce sujet, à moins peut-être qu'il n'épaississe le mystère. Puis, après la chronique d'Aude Lavigne, et avant de faire un tour de manège avec Marine Loyen, le clair-obscur crépitera comme un stroboscope et des couleurs vives embraseront notre studio avec la présence à nos côtés de la chorégraphe coréenne Yoon Mi Han, qui fait danser les grands-mères du pays du matin calme dans le cadre du festival Paris Quartier d'été. Pour l'heure, je vous propose de prendre place, armé d'une bougie à la manière de Georges de la Tour, d'une torche comme à Lascaux ou d'un néon façon Kossuth, pour rejoindre, pour la première partie de notre grande table, nos trois invités que sont la plasticienne et commissaire d'exposition Anne Guillaume, bonjour.
Bonjour.
L'éditeur de livres d'art et écrivain Adam Biraud, bonjour.
Bonjour.
Et au téléphone, le journaliste et responsable des pages art et culture du Nouvel Observateur, Bernard Géniès, bonjour.
Bonjour.
Souvent, dit-on, la clé de l'énigme se niche dans l'enfance. Alors vous qui êtes artiste, Anne Guillaume, dites-nous un mot de votre enfance et du décor énigmatique qui l'environnait. Parce que si je parlais tout à l'heure des squelettes dans vos placards familiaux, c'était sans jeu de mots.
C'est vrai que petite, j'ai grandi dans une famille d'archéologues avec un père médiéviste et une mère préhistorienne. Donc, il y a énormément d'objets dans cette maison d'enfance qui sont très, très différents. Et des silex, des squelettes mérovingiens, des objets techniques, des fossiles. Et tous ces objets, les uns à côté des autres, j'essayais de les faire parler, de les faire dialoguer, en fait.
Mais ce n'était pas des squelettes ou des écorchés, comme chez Léo Mallet, chez Nestor Burma, sur lequel il posait son chapeau. Ce sont des squelettes morcelés.
C'est des squelettes qui ont été sortis de leur sépulture pour être entreposé quelque part, et il s'avère qu'il n'y avait plus de place ailleurs que chez mon père.
Et qu'y a-t-il d'énigmatique dans l'expérience archéologique, peut-être dans la mise au jour d'un objet sur un champ de fouilles?
Je crois que c'est son interprétation, le moment de sa trouvaille, le moment où l'archéologue invente le site, invente l'objet. C'est un mot que j'aime beaucoup, parce qu'il est très énigmatique aussi. Et puis son interprétation, son l'histoire de l'objet, sa vie qui... L'objet a beaucoup de vie, énormément de vie, beaucoup de points d'origine en fait.
Bernard Géniès, dans votre numéro spécial, votre dossier du Nouvel Obs de cette semaine, les grandes énigmes de l'art, il y a aussi d'étranges découvertes archéologiques.
Oui, tout à fait. Elle concerne les découvertes liées aux grottes préhistoriques, donc à ce qu'on appelle l'art pariétal. Deux auteurs français ont émis une thèse, alors qui est un peu discutée dans les milieux officiels, les milieux scientifiques. Cette thèse dit que, en fait, les hommes préhistoriques auraient dessiné les animaux que l'on sait sur les parois des grottes, Chauvet notamment, à Lascaux, en s'aidant de petites figurines qu'ils auraient éclairées à l'aide de leur feu ou de leur torche. Et c'est cette ombre qui, sur les parois, leur aurait permis de délimiter, en fait, la silhouette des animaux qu'ils ont représentés. Alors évidemment, c'est une thèse qui est discutée, mais elle a en tout cas des aspects de véracité, parce que notamment, elle met en lumière le fait que beaucoup de ces figures, de ces silhouettes d'animaux, sont à peu près identiques. Donc on peut imaginer que ces hommes préhistoriques se seraient peut-être aidé ou auraient été assistés par des figurines dont ils auraient projeté l'ombre sur les parois des grottes. Je répète, la thèse est discutée, mais elle mérite en tout cas d'être examinée et elle est en tout cas l'une des énigmes que l'on présente dans ce numéro.
Oui, parce qu'il y en a d'autres. Hein. Il y a une histoire de hache de jade alpine trouvée en Angleterre à Canterbury. Il y a des symboles de l'Indus restés indéchiffrables, avec des, aussi des histoires d'inscriptions en langue méroïtique du Soudan ancien.
Tout à fait. Et là, c'est vrai que, par exemple, si on prend l'histoire de la hache anglaise, elle est assez étonnante. C'est une hache en jade, qui est à peu près une vingtaine de centimètres, qui aurait été façonnée vers 4000 avant Jésus-Christ. Et il se trouve que le patron du British Museum à Londres a essayé de savoir, en fait, d'où provenait cette hache en jade. Il y en a d'autres en Angleterre. Et en fait, c'est un peu par hasard qu'il a eu vent des travaux menés par des archéologues français, Pierre et Anne-Marie Petrequin, qui lui ont suggéré l'idée, en fait, que cette hache en jade, il faut savoir qu'il n'y a pas de gisement de jade en Angleterre, pourrait provenir, et provient même, disent-ils de manière certaine, d'un gisement situé dans les Alpes italiennes, et que cette hache, donc, aurait fait, alors là, c'est le mystère, c'est qu'en fait, cette hache, on ne sait pas trop, en fait, comment elle est arrivée en Angleterre, que l'on ait pu identifier de manière à peu près certaine l'origine du jade, le gisement dont elle provient, cette hache, ne résout pas le mystère du voyage en Angleterre. Il ne faut quand même pas oublier qu'on est à 4000, moins 4000 avant Jésus-Christ. Voyage à l'époque quand même, hein, est assez long. Donc là, c'est un des mystères qui aujourd'hui continue de régner, on peut dire, sur ce type d'objet précieux. C'est une hache magnifique, hein, qui était polie, avec certainement des fibres végétales. C'est une très très belle pièce des collections du musée du British Museum à Londres.
Adam Biro, vous travaillez vous aussi avec des fibres d'origine végétale, mais pas pour de l'archéologie. Vous travaillez sur les livres, le papier, une grande carrière d'éditeur de livres d'art, d'essayiste, d'auteur aussi, d'auteur d'un polar, un polar sur fond rouge façon Casimir Malevitch. L'énigme de votre rapport personnel à l'art, cette énigme, est-ce qu'elle trouve ses racines aussi dans l'enfance à Budapest ?
Pas du tout. Pas du tout. Non, les racines sont plutôt écrites. J'étais attiré en fait par l'écriture. Lecture, livre. J'avais un oncle qui était peintre, effectivement, mais je l'ai très peu connu. L'art est arrivé par hasard. Je voulais être éditeur et c'est un éditeur de livres d'art qui m'a embauché. Et je me suis dit, ce n'est qu'un passage, de toute façon, je ne vais pas rester là parce que moi, je veux publier Proust et Kafka et puis j'irai chez un grand éditeur faire des vrais livres. Et en fait...
Vous êtes devenu un grand éditeur avant de travailler pour un autre grand éditeur, Cohen & Cohen, aujourd'hui.
C'est vous qui le dites.
My love hope never to come back. I see people turn their heads and quickly look away. Like a newborn baby, it just happens every day.
Peut-être eux aussi amateurs des énigmes, de l'obscurité qu'il y a au cœur des œuvres d'art. Les Rolling Stones chantaient « Painted Black ». Il y a de la peinture noire dans votre nouveau roman, dans votre polar, Adam Biro, un polar édité chez Art Noir. Cette collection donc de thrillers dédiés à l'histoire de l'art, au monde de l'art. Votre polar, c'est « Cadavre noir sur fond rouge ». Quelle énigme se loge au cœur de ce récit, de cette enquête ?
Et déjà, le titre est indicatif, puisqu'il s'agit du carré noir sur fond blanc de Malevitch. J'en ai profité pour parler de Malevitch, parce que je trouve Malevitch intéressant. Je trouve l'époque en Russie, d'abord l'Union soviétique, ensuite absolument passionnante. Et d'ailleurs, dans toute cette collection Art Noir, l'éditeur veille à ce que tout ce qu'on dit de l'art soit exact, précis, étudié et même parfois. Il n'y a pas de blabla autour de l'art. Par exemple, dans mon bouquin, j'ai passé des mois à lire ce qu'a écrit Malevitch, à regarder les tableaux, le catalogue raisonné.
De retrouver notamment quelle pouvait être l'origine, le pays d'origine de Malevitch.
Ah, très compliqué. Alors là, ne me cherchez pas là-dessus, parce que entre la Pologne, l'Ukraine, la Russie, tout ça est très compliqué. Cela dit, ça a peu de choses à faire avec l'art. C'est anecdotique pour Malevitch lui-même. Mais bon, son art est plutôt lié, en ce cas-là, je dirais, aux grands mouvements révolutionnaires artistiques russes qui ont précédé la révolution de 17.
Mais alors, votre flic, dans votre polar, Adam Biro, il s'appelle le commissaire Lyotard. Est-ce que, même si l'orthographe diffère un peu, il y a un hommage, peut-être un dommage aux recherches de Jean-François Lyotard, qui lui a pu parler de l'énigme du visuel. C'était à propos du peintre américain Sam Francis.
Oui, en fait, je suis obligé de vous contredire. J'ai pensé à Lyotard, l'écrivain, mais en fait, j'ai vécu très longtemps à Genève et j'ai une passion pour le peintre Lyotard, qui s'écrit avec I et non pas avec Y. C'est un très grand peintre, pastelliste, qui a vécu un peu partout, à Genève, en Orient, etc. Et moi, je me suis dit, je vais appeler mon commissaire Lyotard, mais ça n'a absolument aucun rapport avec le livre. Il fallait bien trouver un nom et j'aurais pu l'appeler Dupont, mais Lyotard, c'était plus drôle. Alors, mais c'est un grand peintre, Lyotard, je tiens à... méconnu et moi je l'aime énormément.
Mais alors je reviens à votre flic, à votre commissaire qui s'appelle donc aussi Lyotard avec un I. Il est tourangeau, comme vous, qui passait du temps en Touraine. Oui. C'est un peu votre reine le château de la Touraine. L'écrivain, l'auteur de polar que vous êtes, comme un flic, il travaille à éclairer et en particulier peut-être plutôt que toute la vie de Casimir Malevitch aussi à éclairer dans cet ouvrage du moins les ténèbres du marché de l'art.
Oui, ce que j'aime en fait, c'est écrire. Je dirais presque une banalité ou une vulgarité, écrire n'importe quoi. J'aime beaucoup l'acte d'écrire.
Et pourtant, c'est très documenté. Vous articulez
j'écris pas
de l'écriture.
J'écris sur n'importe quoi, mais j'écris pas n'importe quoi. Alors, je travaille. Malevitch, je le connais, je peux vous le dire. Je suis incollable sur Malevitch. Mais il m'a intrigué. Enfin, d'abord, c'est une commande, donc j'étais enchanté parce que je connaissais un peu le personnage.
Et on vous a commandé de régler des comptes avec le marché de l'art, les collectionneurs, les voleurs?
Non, je suis trop petit pour régler le compte avec le marché de l'art. Vous pensez bien que le marché de l'art est infiniment puissant. On ne peut pas régler son compte. En plus, il existe depuis toujours. Les faux, les vrais. Vous savez très bien, on découvre des choses en disant « Mais non, ce n'est pas Giotto, vous savez bien que c'est... » Après, c'est quand même Giotto de nouveau. Enfin, par exemple, le concert champêtre, etc. Enfin, bon.
Bernard Géniès, on entend des mouettes dans le micro grâce à votre coup de fil à l'air libre. Je ne sais pas s'il y a des cadavres sur la jetée là où vous vous trouvez, mais en revanche, il y a du polar dans votre dossier, les grandes énigmes de l'art dans le Nouvel Obs. Vous comptez notamment l'obscure histoire de la fabrication d'un pigment rouge avec le cœur broyé de membres de la famille royale par un révolutionnaire français.
Oui, alors c'est une histoire qui n'est pas avérée, mais on sait... Mais il y a un doute, c'est vrai. On sait qu'un membre du comité de salut public, qui s'appelait Louis-François Petit-Radel, a vendu, après la profanation de la chapelle Sainte-Anne, au Val-de-Grâce à Paris, a vendu des cœurs embaumés des membres des familles royales. Ces cœurs étaient momifiés, hein, c'est-à-dire que c'est des cœurs qui étaient en fait vidés de leur substance organique et puis en fait conservés. En fait, on peut dire qu'ils étaient presque secs, si l'on peut dire. Et après cette profanation, il est allé voir un peintre, plusieurs d'ailleurs, mais l'un d'entre eux, qui s'appelle Dröling, pour lui proposer d'utiliser ses cœurs pour peindre des tableaux. Qu'est-ce qu'on fait avec un cœur quand on veut peindre un tableau? Eh bien, Dröling l'a fait, c'est une recette qui est connue, hein, ça s'appelle la mumie, à plonger le cœur dans un mélange d'alcool et d'aromates. Et le liquide obtenu, en fait, lui permet d'obtenir une sorte de... J'ai écrit pigment, mais en fait, le terme n'est pas exact, en fait, de préparation liquide qui permet de réaliser des glacis d'une qualité absolument extraordinaire, de couleur un petit peu sépia. Enfin. Donc l'histoire n'est pas, vérifié, ce que je dis dans le papier d'ailleurs, c'est qu'en fait la seule façon de vérifier cette hypothèse, ce serait en effet de prélever des fragments de matière picturale sur le tableau pour voir si cette énigme est réelle ou pas, sachant que Drolling en effet l'aurait utilisé pour plusieurs tableaux. Là, je cite l'intérieur d'une cuisine. Bon, il faut savoir que les peintres ont toujours utilisé... Là, je me trouve, en fait, les mouettes que vous entendez, c'est parce que je me trouve en Bretagne, à Dinard. Il y a en ce moment à Dinard, au Palais des Arts, une exposition consacrée justement aux relations de l'art et de la gastronomie. Et dans les œuvres exposées, il y a des dessins, pas des dessins d'ailleurs, des sortes d'aquarelles ou de gouache de Gérard Gazirovski qui a utilisé des matières fécales pour peindre. Bon, on sait que des artistes comme Ansel Kiefer ont utilisé aussi le sperme. On sait que les mélanges utilisés avant la Renaissance pour faire des œuvres à tempéra, on utilisait de l'œuf. Donc on a déjà utilisé des matières, si on peut dire, vivantes pour réaliser des œuvres d'art. Là, c'est un petit peu quand même très particulier. Il faut se replacer dans le contexte de la fièvre de la Révolution française. Et on peut imaginer, en effet, que ce peintre a utilisé ses cœurs pour obtenir ce liquide, cette préparation qui leur aurait permis en effet de réaliser des glacis. Et c'est vrai, quand on voit ce tableau pour l'intérieur d'une cuisine, c'est un tableau assez magnifique. Et c'est vrai qu'il y a une couleur qu'on ne retrouve pas.
Alors
là, c'est comme très particulier. Mais c'est une énigme qui n'a pas de réponse. Le propre de ces énigmes, et ce qu'on montre dans le dossier d'ailleurs, c'est qu'il y a des énigmes comme l'art pariétal, par exemple, qu'on n'arrive pas à comprendre. Et il y a aussi aujourd'hui d'autres types d'énigmes. L'art aujourd'hui ne présente quasiment plus l'art contemporain d'énigmes. Mais ce sont les artistes qui jouent maintenant à devenir eux-mêmes énigmatiques.
Alors, précisément, dans ce dossier, les grandes énigmes de l'art du Nouvel Observateur, il est question des énigmes préhistoriques, de celles du XVIIIe siècle, mais aussi de certaines de la Renaissance, du XXe siècle et même du XXIe siècle, avec ce fameux artiste anglais Banksy, qui fait fantasmer tout du moins les médias. Au XXe siècle, il est question en particulier de cette figure de l'art contemporain, de l'art moderne, qui s'est intéressé à l'énigme, Marcel Duchamp qui, notamment avec ses ready-made, et en particulier l'un d'entre eux, à bruit secret, s'empare d'un objet qui est aussi au cœur de votre travail, Anne-Guillaume, le grelot.
Le grelot, oui.
C'est une énigme dont vous êtes emparée. Et le grelot qui est plus énigmatique qu'il n'y paraît.
C'est une énigme dans la mesure où je suis persuadée que l'énigme est à l'origine de tout et de la création. Je crois que créer un objet, c'est trouver beaucoup d'ingrédients différents, penser à sa matière, penser à son sens, à son symbole, à sa provenance, à son matériau. Et finalement, le grelot a toutes ces qualités-là. Et c'est vrai que depuis des années, maintenant, j'organise autour de moi ces énigmes. C'est-à-dire que je crée des objets qui sont énigmatiques parce qu'on ne sait pas à quel moment ils ont été créés, ni dans quelle catégorie d'objets ils ont été faits.
Alors précisément, vous êtes venu avec l'un de ces objets,
oui, voilà,
énigmatiques.
Je vais sortir cet objet.
Sortez-le de votre sac, oui.
Voilà, un objet à la radio. Je vous le prête.
Qui n'a rien d'un grelot.
Il n'a rien à grelot.
Comment vous le décririez, Adam Biro, vous qui êtes un amateur au sens de l'amour, de l'art ?
Ça me plaît beaucoup. Ça me rappelle un peu des ustensiles dont je me servais quand j'étais plus jeune pour des abdominaux. J'étais couché à plat ventre et je les roulais comme ça devant moi. Je pense que vous y avez pensé aussi, certainement. Mais c'est beaucoup plus beau parce qu'il y a deux matières totalement contradictoire. Il y a un qui est collant et l'autre qui est lisse. Et puis en plus, c'est une espèce d'escargot qui s'enroule. C'est chouette. Vous nous le laissez là ?
Je peux vous le prêter. Si vous permettez, j'aimerais bien lire un tout petit texte qui m'a permis de réaliser cet objet. Alors ce texte s'appelle « Eau ». O est un objet, il est unique, nombreux, indispensable, irremplaçable, muet, fétiche. O est un objet à qui il arrive de nombreuses histoires, il saute d'époque en époque, de discipline en discipline. Il se frotte à l'histoire des objets et à leur définition. Il sillonne l'histoire de l'art et l'évolution des différentes théories sur l'objet d'art. O est composé de choses, mais de quoi est-il fait ? Haut traverse l'histoire et accueille tous les récits. Haut ne répond pas aux critères de l'esthétique classique où la comparaison d'un objet d'art occidental est impossible avec un objet d'usage ou avec un objet technique ou encore avec un objet provenant d'un pays lointain ou d'une civilisation éteinte. Haut est l'objet qui invente une théorie pouvant s'appliquer à tous les objets. Haut exclut la notion de beauté car si pour être beau il faut nier son origine, son créateur, sa raison d'être, Haut est toutes les choses. Mais Haut est aussi un objet ancien qui se donne ainsi comme mythe d'origine. Son nom est un indice du langage qui n'entre pas dans la pensée classificatoire établie. Car si les mots eux-mêmes désignent des genres, eau serait un mot à inventer. Si les objets d'usage ont pour fonction de stabiliser la vie humaine, eau s'use.
Mais alors ce eau, il donne un indice aussi sur sa forme, puisque au centre de cet objet, il y a une partie circulaire. Vous pourriez nous la décrire avec vos mots,
c'est
à
ça,
vous, peut-être technique de l'élaboration de cet objet.
C'est-à-dire que cet objet, donc c'était pendant une résidence à la synagogue de Delme, en Lorraine. Et j'ai donc pu produire cet objet, mais qui est finalement 12, en collaboration avec Ergastule, qui est un collectif d'artistes praticien, je dirais, de Nancy. Donc l'idée, c'était de réaliser un objet qui ait toutes les propriétés de tous les objets. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il soit mécanique, numérique, historique, artistique, décoratif. Et donc pour prendre toutes ces considérations et les mettre en un, pour justement permettre à cet objet d'acquérir autant de définitions qu'il y a de subjectivité. Donc cet objet est 12, il y en a 12, et ils sont chacun exposés dans un milieu différent, un musée différent, pour que le contexte de l'exposition lui donne son statut.
Alors c'est un objet portatif, hein, c'est comme une petite meule translucide.
Ça peut être une petite meule.
Avec une poignée en caoutchouc au centre.
C'est ça, en fait c'est du caoutchouc tressé à la malgache avec une ammonite réalisée par un logiciel 3D et coulée à la fin en cristal en fusion. Donc voilà, il y a des indices qui sont là pour certains et chacun y voit absolument ce qu'il veut y projeter. Et donc c'est pour ça que ces objets sont énigmatiques définitivement.
Et alors à propos de ces énigmes et de ces énigmes qui ont une épaisseur historique, il y a donc votre objet haut, Anne Guillaume, et puis il y a aussi la découverte de la grotte Chauvet il y a 20 ans, tout juste cette année.
Jour de pluie pour le site classé du Pont d'Arc, il n'est plus le seul monument de Vallon. Les gorges de l'Ardèche recèlent certes de nombreuses grottes et avennes, mais cette dernière découverte est unanimement célébrée comme exceptionnelle, du moins par les rares privilégiés qui ont eu accès à ce sanctuaire de la préhistoire. C'est le gardien des grottes ornées de l'Ardèche en tournée d'inspection qui s'est retrouvé nez à nez avec les peintures d'animaux préhistoriques. Au bout d'un couloir de 500 mètres, un vaste volume décoré par nos ancêtres du paléolithique. Dans ce lieu dédié à des cultes inconnus, un des plus beaux bestiaires de l'art pariétal. Quelques 300 peintures d'animaux, bisons, rennes ou rhinocéros laineux d'une étonnante beauté. La qualité de conservation de ces œuvres du solutréen et la présence de traces humaines et animales inviolées sur un sol qui semble n'avoir jamais été foulé depuis 15 à 20 000 ans sont des atouts considérables pour les archéologues. La grotte de Vallon-Pont-d'Arc permettra sans doute de faire avancer les connaissances sur cette période de la préhistoire.
Alors, il y a les énigmes de la fabrication, de l'élaboration des œuvres, comme autour des peintures de la grotte Chauvet, donc découvertes il y a 20 ans, en 1994, en Ardèche. Mais il y a aussi l'énigme de ce que les œuvres nous disent. L'énigme, je le disais, étymologiquement, ce sont des paroles obscures. Pourquoi l'artiste parle-t-il avec des paroles obscures? Parce qu'il a peut-être affaire à un indicible. Mais alors lequel? Adam Biraud, l'œuvre d'art, nous parle-t-elle de l'énigme de la mort? Ou peut-être encore de l'impossible adéquation entre les sexes.
Mais l'œuvre d'art parle d'absolument de tout. L'univers entier peut être dit en œuvre d'art. Il y a une phrase d'André Breton, « L'œil existe à l'état sauvage ». Je n'ai jamais été d'accord avec cette phrase. Parce que d'abord, vous avez le contact avec l'énigme de l'art. C'est Malevich, par exemple, le carré noir. Ce n'est qu'un carré noir, mais c'est toute l'histoire de mouvements artistiques, de politiques, d'une pensée, le suprématisme, etc. Et puis par ailleurs, vous devez étudier. Si vous ne connaissez rien de la Russie, rien du constructivisme, rien du suprématisme, rien de Malevich, il vous reste un plaisir esthétique éventuellement, mais vous ne pouvez pas aller au-delà. Au hasard, si vous prenez le David de Michel-Ange à Florence, il est magnifique. Ça peut vous suffire, vous dites, voilà. Mais si vous regardez un peu dans quelle direction la statue regarde, dans l'expression de colère, c'est l'ira républicaine contre la tyrannie, etc. Vous devez étudier la philosophie néoplatonicienne, etc. etc. Donc, après, ça n'enlève rien à votre jouissance, ça en rajoute. Donc voilà, l'énigme, mais l'énigme est là. Vous savez, il y a une œuvre de Man Ray qui s'appelle L'énigme d'Isidore Ducasse. Il reprend la phrase de Lautréamont en disant c'est le hasard, la rencontre fortuite d'un parapluie et d'une machine à coudre. Voilà, donc il a fait un paquet emballé. C'est l'énigme. Il faut, si vous ne connaissez pas Isidore Ducasse, vous ne connaissez pas Lautréamont, vous êtes paumé. Mais c'est drôle quand même. Vous dites, voilà, j'ai une œuvre d'art, comme ce qu'on vient de voir, qu'est-ce qu'il y a dedans? Maintenant, si vous lisez un peu plus, ça rajoute à votre plaisir.
Alors la résolution est peut-être dans le travail d'historien, d'histoire, l'enquête historique sur l'œuvre d'art. Elle est peut-être aussi dans la production. Vous disiez un mot de la production, cet objet haut, Anne-Guillaume. Quand on produit, comme vous, des œuvres, on a un sentiment de résolution d'une énigme, peut-être d'une énigme intime, ou au contraire, ça rajoute des épaisseurs de mystères, de ténèbres.
Oui, c'est vrai que la résolution, c'est une question fondamentale de l'art, parce qu'il faut toujours faire une forme. Mais je crois que, enfin, en tout cas, pour ma part, j'aime bien emprunter en fait les méthodologies des gens des sciences humaines, c'est-à-dire prospecter comme l'archéologue, parce que ça c'était donc fait, cet objet a été fait en résidence, donc je suis dans un territoire que je connais pas forcément, avec des matériaux que je connais pas, avec des gens à rencontrer. Il y a aussi ce côté de réécrire un petit peu ce qui se passe au moment où voilà où les choses arrivent. Et donc la production des objets c'est très important. Bien sûr.
Il y a un sentiment d'eureka.
Ben oui, c'est vrai que surtout que quand on voilà, c'était un projet un petit peu ambitieux, je trouvais de vouloir y mettre tous les objets en un. Bon, mais c'est vrai qu'il y a un sentiment d'eureka. Ce qui est assez drôle aussi, c'est de s'imaginer que ces objets sont plutôt des outils que des formes finies.
Sing me.
Il y a aussi chez Berriot, dans la voix de Cathy Berberian, dans cette séquence à 3 for Woman's Voice, quelque chose d'obscur et de lumineux à la fois. Au fond, chercher à percer l'énigme, est-ce bien non seulement raisonnable, mais bien nécessaire? Anne-Guillaume, vous évoquez l'importance de l'approche scientifique, même des sciences humaines, l'anthropologie par exemple, dans votre travail, mais est-ce que cette approche scientifique peut venir à bout de l'énigme d'une œuvre?
Je crois pas. C'est lors de beaucoup de tables rondes que j'ai organisées à la Cité des Arts, par exemple, il y a 2 ans, j'ai invité des archéologues, des anthropologues et des artistes à converser les uns les autres. Et finalement, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'on se racontait des histoires. Et ça, les histoires, il y a autant d'histoires que de gens sur Terre, quoi. Donc je pense que les objets sont juste prétexte à ce qu'on raconte des histoires, à ce qu'on échange des histoires. Et ce qui est assez drôle aussi, c'est qu'en fonction des archéologues et de leur génération, ils n'avaient pas le même rapport à l'histoire, personnelle en tout cas.
Et à propos de ces histoires personnelles, Adam Biro, vous êtes donc éditeur de livres d'art, mais aussi auteur, vous écrivez vos histoires. L'énigme fondamentale, peut-être la plus insoluble que propose une œuvre d'art, est-ce qu'elle n'est pas du côté du regardeur, comme disait Duchamp, plutôt que de l'œuvre ou de l'artiste?
C'est absolument exact. L'artiste apporte la moitié. L'autre moitié est apportée par le regardeur. Vous savez, c'est drôle parce que je suis passé il y a 2 semaines à Montaigne, à Saint-Michel de Montaigne. Je suis allé voir la tour de Montaigne. Alors du coup, j'ai un peu lu à nouveau les essais que j'aime énormément. Et Montaigne dit à un endroit, mot à mot ce que vous venez de dire, l'écrivain, celui qui parle, ne dit que la moitié. l'autre moitié est dite par celui qui écoute. C'est absolument vrai pour l'œuvre d'art. L'œuvre est ouverte, c'est ce que dit Umberto Eco. Une fois que vous l'avez fait, après, adieu va, vous... Personne ne regarde, j'entends, il n'y a pas deux personnes qui regardent de la même façon un objet. Moi, vous m'avez montré cet objet tout à l'heure, ça m'a rappelé un souvenir d'enfance. Vous montrez à quelqu'un d'autre, il va regarder l'escargot, le troisième va, etc. Mais c'est valable, pour, même pour le carré noir, il y a 40 000 regards possibles. Je déteste, j'adore. J'ai vu un jour une dame pleurer devant un tableau de Rothko. Au musée d'art moderne de la ville de Paris, je suis allé, dit, madame, ça va pas, elle m'a dit, mais ça va très bien, je suis ému. Vous vous rendez compte, ce tableau totalement abstrait, quelqu'un est ému aux larmes. Voilà l'énigme, c'est le sujet de votre émission.
C'est vrai que c'est une belle énigme.
Mais il y a des énigmes aussi avec des objets qui sont des objets d'artisanat et non pas d'art, des objets qui ont un usage et dont l'usage a été perdu. C'est l'objet d'un de vos travaux, Anne-Guillaume,
c'est vrai que j'ai
au Musée des Arts et Métiers.
Voilà, j'ai été invitée à l'ANSSI par Armand Béard, qui est le directeur du studio Art Plastique, pour Phénorama. Et ce qui était très, très intéressant pour moi, parce que c'est exactement comme ça que j'aime travailler, c'est au sein d'un endroit avec une certaine pédagogie, en réaction et en collaboration avec des amateurs et des professionnels des objets, mais pas que artistiques ou archéologiques, mais là c'était effectivement des objets techniques. Et donc j'ai pu organiser avec Armand Béard des séminaires, travailler avec les étudiants pour résoudre la question de l'uchronie des objets techniques, c'est-à-dire qu'un objet technique peut tout d'un coup ne pas avoir ne plus avoir d'usage, ne plus avoir de mode d'emploi, avoir perdu toute sa raison d'être. Et donc j'ai pu réaliser un film produit par l'ANSSI qui est vraiment bien.
En toute modestie, un film qu'on peut voir sur la plateforme Vimeo, c'est oui. Le Never Ending Project. Ça participe en tout cas de ce projet qui est le vôtre. Adam Biro, il y a le fait de se documenter, de se cultiver avant, pendant, après qu'on ait rencontré une œuvre, mais il y a aussi le danger de l'interprétation, justement, de vouloir à tout craint percer le mystère d'une œuvre. Susan Sontag, dans un fameux texte en 1969, L'esthétique du silence, parlait du poison de l'interprétation des œuvres, l'interprétation étant, selon elle, la revanche de l'intellect sur l'art. Elle parle d'une esthétique du silence. Quand on est devant un Rothko ou devant l'œuvre haut de Anne-Guillaume, souvent l'œuvre exige, contraint le spectateur au silence. C'est la meilleure réponse à l'énigme ?
C'est une réponse, c'est pas la meilleure. Il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise non plus. Vous savez, vous parlez d'énigme de l'art, c'est l'art qui est l'énigme. Au-delà, ensuite, on peut
en tant
chercher
que pratique.
En tant que pratique. De quoi parle-t-on ? Il n'y a rien de plus compliqué, de plus énigmatique que l'art. Pourquoi représenter ? Pourquoi ? Mais vous savez, je me souviens d'avoir donné un cours une fois à des lycéens, parler d'art, et ils m'ont dit franchement qu'ils s'en foutaient complètement, que ça ne les intéressait pas. Je leur ai dit, mais regardez, oublions la peinture. Regardez cette chaise. Et quelqu'un dit, elle est moche. Voilà, c'est le début de la discussion. Elle est moche, elle aurait pu être belle. On parle d'art. L'art, c'est pas avec un grand H, hein. C'est pas art, c'est la forme, c'est n'importe quoi. Et là, c'est là que vous intervenez, vous, le regardeur, celui qui... Maintenant, plus vous approfondissez, plus vous regardez les œuvres d'art, plus vous faites votre petit musée, votre petite... Mais l'énigme est là, l'énigme, même pour le plus grand, même pour Panofsky, pour le plus grand historien d'art, l'énigme est totale.
Je crois que là, on peut parler aussi de quand on produit une œuvre, c'est une traduction. C'est une traduction d'un ressenti, c'est une traduction d'une parole, d'un échange, de ce qui se passe entre les gens. Il y a cette idée modeste, je trouve, dans le mot traduction, qui, moi, me permet de faire de l'art.
Il y a ce jeu de mots aussi cher aux Italiens. Le traducteur, c'est aussi le traître. Est-ce qu'on touche à la vérité dans ce travail de traduction ? Au contraire, est-ce qu'on ne fait que trahir ?
On prolonge une idée, c'est une histoire d'idée de toute façon.
Si vous dites, est-ce qu'on touche à la vérité, il faudrait savoir où est la vérité. Est-ce qu'elle existe, cette vérité ? Surtout en art, Dieu sait qu'il n'y a pas de vérité.
Il est 13h19 sur France Culture, il est toujours question d'art, mais avec Aude Lavigne à présent et sa chronique à première vue. Aude Lavigne qui s'entretient aujourd'hui avec Fabrice Bousteau, directeur de la rédaction de Beaux-Arts Magazine.
Fabrice Bousteau est directeur de la rédaction de Beaux-Arts Magazine. Extrêmement dynamique, Fabrice Bousteau a relancé le magazine et court aujourd'hui d'une exposition à l'autre, de part et d'autre de la planète, quand il n'est pas par ailleurs commissaire d'exposition. Au téléphone, Fabrice Bousteau répond à notre question. Quelle œuvre est à l'origine de son goût, de sa vocation, de sa sensibilité pour l'art contemporain ? À première vue, on a réussi à vous arrêter, Fabrice Bousteau. Qu'est-ce que vous nous répondez ?
Je vous répondrai que mon amour pour l'art est dû à un accident félinien. J'étais adolescent et jeune provincial. Pour la première fois, je partais à Paris pour aller voir la rétrospective qui durait pendant 2 jours de films de Fellini et qui avait lieu dans un cinéma qui était proche des Halles. Et par hasard, je ne connaissais même pas l'existence du Centre Pompidou. Je suis passé devant le Centre Pompidou et là, j'ai eu un choc esthétique total. Je me souviens très clairement avoir... passer de moments de rire, de flux de rire et de pleurs face à l'architecture du Centre Pompidou. J'ai encore des frissons, rien que de vous le dire, tellement j'étais ébloui par cette architecture et ça me semblait complètement dingue qu'une chose pareille qui existe, une sorte de chaos doux qui m'a vraiment excité à un point incroyable, au point que j'ai raté un des films de Fellini que je devais voir et que je suis rentré dans le Centre Pompidou. Et là, j'ai eu un deuxième choc. J'ai vu un tableau qui vibrait vraiment devant moi, qui m'appelait en quelque sorte et qui et vraiment j'ai entendu des sons. Ce tableau, c'était un tableau de Kandinsky qui, je crois, s'appelle Improvisation 14. En tout cas, c'était une improvisation de Kandinsky. Et là, j'ai vraiment vu, entendu véritablement des sons et j'ai vu ce tableau où les formes dansait, c'était une sorte de chant profond. Alors ça va vraiment bien avec avec ce qu'est Kandinsky, c'est-à-dire que je crois que Kandinsky avait l'habitude de dire que les improvisations c'était une sorte de traduction picturale de dimension spirituelle et cosmique. Et ce tableau, j'avais comme une voix qui me parlait soudainement. J'ai acheté une reproduction de ce tableau, j'avais très peu d'argent et j'avais dépensé pour moi une fortune pour avoir un poster de ce tableau. Et ma passion de l'art est vraiment due à ça. Je crois que même le tableau de Kandinsky m'a fait oublier l'architecture du Centre Pompidou.
Fabrice Bousteau, on a l'impression que vous êtes rentré dans les ordres alors, à ce moment-là. C'est presque un couvent, vous entendez des voix. C'est une révélation de nature mystique.
Je crois que je suis plutôt rentré dans le désordre en fait. Je crois que je venais d'une famille de la moyenne bourgeoisie où tout était très bien ordonné, bien pensé, avec une éducation judéo-chrétienne, et donc dans les années 80. Et en fait, cette sorte de champ profond, de chaos doux. Moi, ma passion était à l'époque le cinéma et la musique. Et soudainement, l'art pouvait créer une sorte de synthèse entre mes émotions. En fait, c'était aussi une expression de la synesthésie. Je crois que je suis profondément synesthésiste et que l'art m'a permis d'être synesthésiste, d'exprimer ma synesthésie, de la vivre.
C'était à première vue la chronique d'Aude Lavigne. Mais Anne Guillaume, je vous lance la même question que celle que pose chaque jour Aude Lavigne à ses invités. Quelle œuvre vous laisse un souvenir impérissable et peut-être celui d'un commencement ?
Je crois que ce n'est pas une œuvre d'art, ou en tout cas ça peut en être une, mais c'est le travail de l'anthropologue, historien de l'art allemand, Abi Warburg, qui traçait des liens et des lignes entre différents objets de différentes temporalités et différentes catégories. Et c'est ça c'est cette constellation qui m'a permis de travailler.
Alors s'il y avait un texte que vous proposeriez à nos auditrices, nos auditeurs, pour avoir cette rencontre, cette illumination aussi auprès d'Abi Warburg.
Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur Abi Warburg, mais il y a aussi un texte très très beau de Alfred Jail aussi. Là, on est vraiment dans l'anthropologie de l'art qui s'intéresse vraiment aux symboles et au sens des œuvres d'art plus qu'à l'économie du marché ou à la politique autour d'elle. Donc là, on est vraiment dans pourquoi les choses sont faites. Donc c'est vraiment des grandes questions philosophiques.
Adam Biro, vous évoquiez Panofsky. Il y a une œuvre ou peut-être un texte d'histoire de l'art que vous avez encore dans l'œil, sous les yeux ?
Alors, je vais vous répondre avec une histoire qui m'est pas arrivée à moi, mais j'étais témoin. Il y a de longues années, j'étais étudiant, j'ai fait un voyage en Hollande avec des copains. On a visité les musées. On a absorbé les musées, par exemple. On est arrivé à La Haye, moi, les Suisses, il y avait un copain avec nous qui ne s'intéressait pas du tout, mais du tout à l'art. Il est venu avec nous pour faire la fête, pour discuter, boire, et puis nous accompagner. Il nous lisait le guide bleu dans chaque salle. Il n'a jamais regardé, il a dit « À gauche, il y a Rembrandt, etc. » Il a vérifié s'il y a Rembrandt, on a continué. Et tout d'un coup, il a dit « Devant vous, il y a de Vermeer, la vue de Delft. » Ah ! Je l'ai vu tout d'un coup fermer le livre et il a vu la vue de Delft qui est extraordinaire comme tableau. Et j'ai vu l'art frapper quelqu'un comme une révélation, comme la foi. Quand tout d'un
comme
coup,
le frisson sacré d'André Malraux.
Comme la nuit mystique, la nuit de feu de Pascal, etc. Tout d'un coup, il a vu ce tableau, il a dit « Ah !» Et là, je me suis dit « Voilà, quelqu'un qui a été touché par la grâce. »
Voilà. Et tous deux, hors micro, vous évoquiez aussi une expérience de ce type que vous venez de faire, quasiment au même moment, simultanément, dans la Creuse. Dites-en un mot à nos auditrices, nos auditeurs, qui passeraient par là cet été en particulier.
Eh bien, c'est une drôle d'histoire, justement. C'est une des plus belles histoires qu'on m'a racontées lors d'une table ronde. Et c'était Marc Drouet, le grand directeur, le sous-directeur de l'archéologie, et qui est arrivé comme ça et qui nous dit « Bon, écoutez, je ne sais pas exactement pourquoi je suis là, mais j'ai envie de vous raconter une histoire. » Et donc là, il raconte l'histoire de l'inventeuse de ce site archéologique, qui est donc une grande fresque... Qui est très très ancienne, très très belle, et donc l'histoire
sculpté,
de cette
ça qui est extraordinaire.
Mais il faut nous dire, Adam Biraud, le nom de ce site, parce que là pour l'instant c'est énigmatique.
Angle-sur-Anglin. Et le site s'appelle le Roc aux Sorcières.
Et donc Suzanne de Saint-Mathurin, une Française qui est partie en Angleterre faire ses études, revient en France sur le chantier de fouilles. Et puis là, il n'y a que des hommes qui fouillent. Et puis donc elle arrive, elle dit « c'est super, je suis partie, on y va ». Et les hommes la regardent en disant « mais vous n'avez pas un mari et des enfants à nourrir ». Elle repart en leur disant « De toute façon, ce n'est pas ici que les choses vont être retrouvées, vous allez voir ». Elle repart en Angleterre et elle revient dans le village avec deux de ses amies, deux Anglaises archéologues. Et là, elle monte sur le site et elle trouve donc trois femmes, trois corps de Vénus sculptés dans la roche, plus les chevaux. Et aussi un profil d'homme avec une barbe qu'elles ont appelé le Jocon.
Mais on dirait qu'il rit. C'est formidable. Il est un petit nez retroussé. On dirait qu'il rigole. Il est d'une modernité, mais inouïe.
Merci beaucoup à tous deux. Merci Anne-Guillaume et Adam Biraud. Anne-Guillaume, vos œuvres peuvent être découvertes non pas dans la Creuse, mais en ce moment elles sont exposées à Nancy sur le site Alstom dans le cadre des week-ends de l'art contemporain. On pourra aussi découvrir au cours de l'année 2015 tout un ensemble à la fois de vos œuvres et de vos réflexions, de vos travaux de recherche en partenariat avec le HESS. Il faudra suivre ça sur votre site internet. Et puis il y a aussi le site Never Ending Object que j'évoquais tout à l'heure. Adam Biraud, vous, il faudra attendre le 18 septembre pour découvrir vos cadavres noirs sur fond rouge publiés dans la collection Art Noir chez Cohen et Cohen. Et puis si on n'a pas le courage d'attendre, il y a bien sûr vos romans, des histoires juives et puis un dictionnaire du surréalisme et de ses environs publié au PUF. Quant à Bernard Géniès qui était notre invité également tout à l'heure, le Nouvel Obs de cette semaine, je le répète, est consacré aux grandes énigmes de l'art. Pour l'instant, art toujours, mais art non pas lyrique, musical, c'est l'heure de la session live de Mathieu Conquet qui nous propose aujourd'hui d'écouter Alka, qui après avoir prêté sa voix fragile à des groupes pop et électro comme Lafayette ou Château Marmont, vole désormais telle la victoire de Samothrace de ses propres ailes avec la complicité de Benjamin Violet, Alka dans la Grande Table d'été, un live inédit et une chanson intitulée « Qui je suis ». Thank you.
j'étais à toi. Hier encore, tu étais à moi. Depuis 3 ans et quelques mois. Oh, hier encore, j'avais la vie devant moi. Entre mes jambes, entre tes bras. Depuis 3 ans et quelques mois.
C'était la session live de Mathieu Conquet avec aujourd'hui Alka, dont le disque, la première fois, est édité chez Naïve.
La grande table, c'est aussi l'été avec Martin Kénéen.
It looks fit pour cette deuxième partie de notre émission. La lumière est revenue autour de la grande table. Et quelle lumière, foin de clair-obscur, place aux couleurs chaudes et même criardes et au chatoiement des boules à facettes avec l'arrivée dans notre studio de la chorégraphe coréenne Yoonmi Han. Bonjour, annyeonghaseyo.
Annyeonghaseyo.
Yoonmi Han, vous êtes de retour en France et de retour dans le festival Paris Quartier d'été avec un spectacle inédit chez nous, les Dancing Grandmothers, les grands-mères dansantes. Un spectacle qui réunit 12 danseuses amateurs âgées de 60 à 90 ans et les 9 jeunes danseurs de votre compagnie. Vous avez choisi, Yoonmi Han, de faire danser des grands-mères qui sont d'abord des femmes. Et vous avez, vous prétendez un de ces enjeux, c'est de les aider, dites-vous, à retrouver leur identité sexuelle perdue. Pourquoi l'identité sexuelle de ces femmes a-t-elle été perdue ?
En Corée,
la génération donc, qui a été invitée, donc les 60 à 70 ans, ce sont des vieilles dames, donc on appelle grand-mères, et ce sont des personnes qui ont vécu la guerre de Corée, la colonisation japonaise, beaucoup de périodes difficiles, et elles ont eu vraiment des vies très éprouvantes.
Et
la Corée était une société qui était très centrée sur les hommes. Donc, ce sont des personnes qui ont vécu une histoire où elles avaient été un peu isolées. Et au lieu d'avoir une vie indépendante en tant que femme, c'était en fait, je voulais montrer leur côté de mère, leur côté féminin. Et ce sont des femmes également qui ont contribué beaucoup à la société, des femmes fortes. Donc quand elles étaient jeunes, elles n'ont pas vraiment eu de jeunesse, elles n'ont pas pu en profiter. Et à travers leur danse, je voulais en fait leur faire rappeler leur jeunesse qu'elles avaient oubliée. Et aujourd'hui, maintenant, vous savez, les gens vivent jusqu'à 100 ans. Donc je voulais les faire renaître, faire revivre leur jeunesse, leur corps, le montrer sur scène.
Parfois, dans les productions culturelles coréennes qui viennent en France, en particulier au cinéma, mais aussi avec les disques de la K-pop, la pop coréenne, qui mettent en scène des jeunes filles très féminines, très girly, très lolita, on a le sentiment que cette domination masculine sur la société, sur les femmes, existe toujours. Est-ce que les choses ont profondément changé entre ces grands-mères, votre génération et peut-être aujourd'hui la vie de vos plus jeunes danseuses ?
Après les années 60, en Corée, la Corée du Sud s'est modernisée et la vie contemporaine. Aujourd'hui, on peut voir que, bien sûr, en tant qu'éducation, la culture, on est une génération qui a eu vraiment beaucoup de chance et par rapport à la génération de ces vieilles dames. Maintenant, le rôle des femmes est beaucoup plus important, mais il est vrai que si avant les femmes étaient cantonnées dans leur rôle de femme au foyer pour élever leurs enfants, aujourd'hui le rôle est assez équilibré, mais quand même par rapport aux hommes, nous sommes quand même en posture inférieure.
D'ailleurs, vous continuez le combat, vous êtes une combattante à travers vos chorégraphies, vos spectacles, Yoon Mi-han. Il y avait ce spectacle présenté l'an passé dans Paris Quartier d'été, qui était le premier spectacle de vous qu'on voyait en France, La Princesse Barry, spectacle symphonique, qui était une expression de votre combat pour la liberté sexuelle, en particulier pour la défense des homosexuels, un sujet qui reste tabou pour les femmes, ces grands-mères que vous mettez en scène dans ce spectacle. Vous avez parlé d'homosexualité avec elles ?
Toutes les sociétés rêvent d'équité, d'égalité, que tout le monde se comprenne, se soutienne. C'est ça la société que l'on veut tous. Dans Princesse Barry, si le personnage principal était un homme, et que même, par exemple, dans ce spectacle-ci, ce sont des hommes qui portent des jupes, je sais que c'est quelque chose de tabou, et en montrant cela, je voulais que vraiment il y ait une compréhension mutuelle, une sorte de tolérance entre les gens. Et aujourd'hui, beaucoup de femmes se battent pour cela. Beaucoup d'hommes essayent également, s'efforcent de comprendre et d'accepter ce fait.
Et les grands-mères que vous faites danser et qui dansent avec vos danseurs, en particulier hommes déguisés en femmes, elles ont compris, elles ont accepté ou au contraire ont-elles été choquées ?
Les grands-mères, en fait, elles sont beaucoup plus intéressées par leur vie. Les hommes qui portent une jupe. Et je pense qu'à leur époque, pour eux, les hommes c'était des hommes, les femmes c'était des femmes. Tout le monde avait des rôles très définis, établis. Et donc, elles n'ont pas dansé à cause de cette distinction. Elles n'ont pas du tout été influencées. Mais pour la première fois de leur vie, elles ont dansé sur scène. Donc, avec la force, l'énergie et la technique, surtout de ces jeunes danseurs, elles ont été très influencées. Et ça leur a donné vraiment de la force et de la gaieté pour pouvoir danser plus que de se poser des questions sur l'identité sexuelle.
Namjin, chanteur pop sur les ondes de France Culture en l'honneur de Yoon Mi-han. Yoon Mi-han, vous aimez, vous connaissez et vous jouez ce morceau dans le cadre de votre spectacle Dancing Grandmothers.
C'est un chanteur qui s'appelait Namjin et c'était dans les années 70, le Elvis Presley coréen. Il était tellement beau et il dansait très bien. Et en fait, ça parle d'une histoire d'amour. Il dit qu'en fait, il a besoin de rien d'autre que de sa bien-aimée. Il n'a pas besoin de maison. Il veut juste être avec elle et qu'il sera heureux toute sa vie. Donc, à l'époque, c'était vraiment une période difficile et ça a été une chanson très connue qui a inspiré beaucoup de femmes, qui les a rendues heureuses. Et c'est une chanson qui s'appelle Dongji, donc une traduction en Mi, et qu'on utilise dans notre spectacle. Mais tous les Coréens connaissent ce chanteur.
Mais alors précisément, vous parlez à propos de Namjin d'Elvis Presley. Est-ce qu'il avait des pas de danse qui vous ont inspiré comme chorégraphe, Yoon Mi-han ?
Quand j'avais vu Namjin, c'était quand j'étais à l'école primaire, donc c'était à la télévision, qui était en noir et blanc, je voyais juste un jeune homme beau, qui était gay, qui chantait, qui dansait. Donc,
les techniques de
chorégraphie qu'il avait, c'était pas quelque chose de très marquant, mais c'était quelque chose de très lascif qui attirait les jeunes femmes. Donc je pense que c'était plutôt justement le regard lascif qui m'a peut-être inspirée.
Et c'était un certain contraste avec la danse folklorique que vous pratiquiez quand vous étiez précisément à l'école primaire.
La danse de Namjin était en fait des gestes qui viennent de la culture occidentale, parce que la culture coréenne, en fait, les hommes ne bougent jamais le bassin, et c'est avec la culture occidentale qu'on a commencé à un peu avoir des gestes lascifs. Mais dans la culture traditionnelle, bien sûr, c'était vraiment tabou, c'était interdit.
Alors c'est des gestes que vous vous autorisez, vous, dans vos chorégraphies aujourd'hui, ces gestes lascifs. C'est d'ailleurs, vous faites la confrontation, la rencontre entre les gestes occidentaux, en particulier ces gestes lascifs du bassin, et puis toute la tradition de la danse coréenne.
Quand j'étais née, la culture occidentale était déjà présente en Corée. Et c'était le monde devenait de plus en plus global. Donc la Corée, les États-Unis, la France, tous ces pays n'étaient plus vraiment distants. On vivait dans toute cette sorte de melting pot. Et bien sûr, la culture coréenne était déjà en moi. Et tout ce qui était culturel ou qui venait de l'éducation, que j'avais appris à l'école, en fait, il y a eu vraiment ce mélange entre la tradition et ce qui venait de l'étranger. C'est devenu très naturel. Donc c'est pour ça que je pense que le haut et le bas est assez important et ce mélange est assez naturel dans mes chorégraphies.
Alors, on l'entend, l'histoire de la Corée, bien sûr, rejoint la grande histoire mondiale, en particulier avec l'expérience de la guerre de Corée, que vous appelez la guerre civile entre 1950 et 1953, qui a notamment participé à la diffusion de la culture américaine dans la péninsule. Mais il y a aussi des histoires personnelles, singulières, qui sont celles, si on revient à elles, de vos grands-mères que vous faites danser dans le cadre du festival Paris-Quartier d'été jusqu'au samedi 9 août à Paris, au Théâtre de la Colline. Ces grands-mères qui ont des corps, dites-vous, comme des musées, qui ont chacune leur histoire. Quelles histoires particulières avez-vous rencontrées avec ces femmes ?
Les vieilles dames, les grands-mères, pour moi, ce sont des corps en fait qui racontent le passé, l'histoire, et qui vont bientôt aller vers la mort. Et pour nous, ces corps-là, ce sont des corps qui représentent le passé seulement pour les jeunes. Mais finalement, en allant filmer ces vieilles dames, en les rencontrant une par une, j'ai vu que leur corps racontait des histoires. Ce sont des corps qui racontent encore plus que qui sont encore plus forts que des documentaires sur l'histoire. Ce sont vraiment des corps qui sont très forts et qui représentent beaucoup. Et comme ce sont des personnes qui ne sont pas connues, bien sûr, leurs histoires, leur vie ne sera pas racontée au cinéma, mais toute leur expérience est représentée par leur corps, par leur mouvement. Et c'est vraiment cette entité vivante qui m'a inspirée. Et dans ma compagnie de danse, la personne qui est la plus âgée a 85 ans. Et quand elle est née, elle est née dans les années 1930, donc elle a vécu indirectement la Seconde Guerre mondiale, elle a vécu la colonisation japonaise et la guerre de Corée. Et aujourd'hui, elle vit également la vie, le high-tech. Donc, c'est vraiment un corps qui a traversé toutes ces époques. Et elle raconte tout cela, pas par de l'écrit, mais par son corps. C'est bien sûr une énergie, une danse qui est différente de l'énergie et de la danse des jeunes d'aujourd'hui. Et ça, on peut le voir à travers son corps sur scène.
Précisément, vous parlez de l'importance du corps et du langage du corps de vos danseuses amateurs, de ces vieilles dames. C'est ce qui est surprenant, c'est que vous avez découvert non seulement des histoires, des souvenirs, mais aussi des gestes, des pas de danse originaux avec ces grands-mères. Est-ce que vous pourriez me décrire un de ces gestes qui a étonné la chorégraphe que vous êtes ?
La danse, en fait, commence par la question « Qu'est-ce que la danse ? Pourquoi on danse ?» Pour la jeune génération, nous allons en boîte, danser. On a souvent l'occasion d'aller danser, mais pour cette génération-là, ils n'ont jamais appris à danser. Ils n'avaient pas de lieu où aller danser. Donc, de l'après-midi jusqu'au soir, ils travaillaient. Et le geste de leur travail, c'est de faire des gestes de repli de bras.
D'allonger, de replier les bras vers soi.
Tout le travail, en fait, les muscles, à chaque fois, les bras doivent revenir vers notre corps, de l'extérieur vers l'intérieur. Et le soir, ils ont besoin de faire autre chose pour se détendre, pour oublier cette vie éprouvante. Ils ont besoin de cette énergie. Et pour cela, ils mettent leurs bras à l'extérieur, ils allongent leurs bras. Et ils balancent leurs bras de gauche à droite. Et c'est exactement l'inverse du geste de travail qu'ils faisaient la journée. Et c'est exactement ça pour eux, ce qui représente la liberté. Donc, quand vous voyez sur scène ces grands-mères qui agitent leurs bras, qui étendent leurs bras
sur les côtés.
De l'extérieur, à l'extérieur, sur les côtés, c'est exactement le geste inverse du dur labeur qu'elles faisaient la journée.
Alors ça, ce sont les gestes que vous ont appris, que vous ont permis de découvrir ou de redécouvrir ces grands-mères. Mais qu'est-ce que vous, Yunmian, chorégraphe, avez-vous apporté à ces femmes ? Qu'est-ce que vous leur avez fait ? Vous aimez le chamanisme ? Est-ce que vous croyez que ces grands-mères, paysannes pour la plupart, elles vous ont pris pour un chaman ?
Moi, je leur ai rien enseigné à ces grands-mères. Elles sont juste venues, je leur ai juste demandé de danser. Et la plupart des grands-mères me disaient « Non, mais moi, je ne sais pas danser. » Alors, je leur ai dit que tout le monde pouvait danser, tout le monde sait danser. C'est seulement qu'on leur a jamais donné l'occasion de danser à ces personnes. Concernant le chamanisme, c'est une occasion de rencontrer Dieu. Et quand on danse, on peut rencontrer facilement Dieu.
Et Dieu est sur le dance floor avec les Dancing Grandmothers.
Call 때까지
Chu-Ja Kim, si je prononce bien, la Madonna coréenne sur les ondes de France Culture, donc toujours en l'honneur de Yoon Mi-han et de ses Dancing Grandmothers, ce spectacle qui vous donne rendez-vous au Théâtre de la Colline à Paris jusqu'au 9 août. Quand vous avez créé ce spectacle en Corée, Yoon Mi-han, il y a 4 ans, vous aviez également un projet de nightclub, de boîte de nuit mobile pour les grands-mères des campagnes. Est-ce que vous l'avez réalisé ? Non, alors j'aurais mal lu. En revanche, alors permettez-moi de vous poser une autre question, puisque vous faites danser sous la boule à facettes ses grands-mères et le public également. Elles dansent sur les tubes de leur jeunesse. On en a entendu certains, c'est des chansons populaires des années 50, 60, 70. Qu'est-ce que vous pensez du succès d'une autre danse, la danse du cheval, le Gangnam Style, cette danse venue de Corée que toute la planète a exécutée? Vous aussi, vous avez dansé la danse du cheval?
Oui, bien sûr, toute la Corée a dansé sur Gangnam Style. Parce que c'est une danse en fait qui est facile à apprendre. Et donc c'est la danse du cheval. Et tout le monde, vous savez, a envie de s'évader et de galoper. Et je pense que c'est ça en fait qui a beaucoup plu aux gens.
Je parlais tout à l'heure des œuvres culturelles coréennes qui viennent jusqu'à chez nous, en France. Il y a donc cette pop, cette K-pop, la pop coréenne avec un K. Il y a aussi les films, des films qui donnent une autre image de votre pays, la Corée du Sud, une image volontiers violente, voire même cruelle. Je pense aux films de Hong Jin-na ou de Hong Sang-soo. Est-ce que ça correspond vraiment au visage de la Corée, un pays divisé entre un peu de futilité et de la violence ?
Je crois que tous les pays ont ses propres problèmes. Les réalisateurs qui font ce genre de films sont intéressés par le côté sombre de la société, veulent le montrer, le partager pour pouvoir résoudre ces problèmes. Et c'est pour ça qu'ils font ce genre de films. Mais tous les films coréens ne sont pas violents. Je pense que c'est surtout les films qui sont distribués à l'étranger et montrés à l'étranger qui sont peut-être particulièrement violents, mais il y a beaucoup de films qui sont doux, il y a aussi également beaucoup de documentaires, et je vois donc qu'il faut qu'il y ait aussi d'autres films différents qui puissent être montrés en France.
Mais vous parlez aussi dans vos chorégraphies, Yoon Mi-han, d'amour, mais également de violence. Alors aujourd'hui, comme à votre habitude, vous êtes dans le studio avec des couleurs très flashy, très criardes, très colorées, et une robe à fleurs. C'est votre façon d'aborder aussi les difficultés de la société coréenne, par la couleur, par le côté sucré ?
Je pense que dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours la souffrance pour base. Car les hommes, dès qu'ils naissent, quand ils naissent, ils ne sont pas parfaits. Et on a toujours envie de combler ce manque. On est toujours à la recherche, à la poursuite de notre rêve.
J'ai
toujours envie d'avoir cette énergie que je recherche dans mes spectacles. Et c'est ça en fait que je montre au public.
Merci beaucoup Yoon Mi-han. Donc vos Dancing Grandmothers, elles jouent dans le cadre de Paris Quartier d'été au Théâtre de la Colline jusqu'à samedi, jusqu'au 9 août. Merci beaucoup également à votre traductrice Jae-in Kim, si je prononce bien, qui avait fait un travail admirable. À présent, autour de la grande table d'été, eh bien, c'est la chronique volontiers clinquante, elle aussi, de Marine Noyen, une chronique dédiée à la culture populaire. Bonjour Marine.
Bonjour.
Alors aujourd'hui Marine, vous nous emmenez sur la Grand Roue. À la fête foraine.
Oui, barbe à papa, pommes d'amour et kebab frites. Aujourd'hui, je vous emmène à la foire, à la fête des loges, hein, plus précisément, à quelques kilomètres de Paris, à Saint-Germain-en-Laye. En ancien français, le forain, c'est l'étranger qui se déplace de ville en ville au gré des foires et des fêtes de village. Avec son manège, il apporte aussi avec lui son image sulfureuse, cette réputation de voleur de poules qui lui colle à la peau. Mais être forain, c'est surtout une histoire de famille, de dynastie même. Emmanuel, par exemple, vient d'une famille de forains depuis 5 générations.
Allez, ça balance encore toujours de plus en plus fort. Donnez-vous bien sens, ainsi en meilleur dans votre sens. Ah, que j'aime ça vous entendre crier, mesdemoiselles. Ça excite la machine. Ouh là là.
Je vous ai entendu, vous êtes pas mauvais au micro.
Vous trouvez que je suis pas mauvais?
Ouais.
Bah oui, c'est pas mal.
Ça fait longtemps que vous faites ça aussi, peut-être.
Oui, je suis né dedans, moi. Ça va faire exactement, oulala. J'anime depuis l'âge de 14-15 ans. Je vais avoir 43 ans. Monter, démonter son manège, savoir l'animer, savoir souder, savoir peindre, savoir... faut savoir, dans le métier forain, faut savoir tout faire.
Bon, alors c'est quoi les techniques un peu pour animer un manège?
Déjà, faut l'animer avec son cœur. Faut pas parler plat. Avancez, prenez place, non, on dit. Avancez, prenez vos places. Faut un petit peu rouler, un petit peu, que ça soit plus agréable à écouter. Plus ce manège qui fait son travail, parce que c'est un manège qui est attractif, qui est spectaculaire et qui met de l'ambiance. Il n'a jamais le même mouvement. C'est une balançoire de 40 personnes. Ils sont face au public, ça se balance, la tête à l'envers quelques secondes. Il vous fait un looping, après il vous fait 5 loopings.
Moi, je les entendais quand même tout à l'heure, ils criaient. Hein.
Ah oui, il crie, mais c'est un bon cri. Il y a d'autres cris, il y a plusieurs cris sur un manège. Ce cri-là, il est bon, il est agréable.
Et vous rigolez un peu avec les filles, hein, pas mal.
Ah oui, ouais, mais j'aime ça, moi. J'aime animer, j'aime ça, bien sûr. Puis surtout les demoiselles avec un petit décolleté, je les charrie un petit peu, puis faut un peu déconner. On n'est pas non plus à l'usine, où les gens ils viennent là pour se divertir, pour s'amuser, pour changer les idées. Bon, donc faut prendre les choses un peu à la rigolade. Hein.
Bon, et vous aimez ça, l'ambiance de la foire?
Bah une fête foraine, déjà, le soir illuminé, c'est magnifique, toutes ces lumières, puis l'ambiance, l'animation de chacun, c'est tout un ensemble, c'est festif, donc voilà. Oui, c'est une famille, la plupart des gens, ils font la même tournée que moi, donc on se retrouve. Des fois, bon, il y en a, on fait la foire du trône, il y en a qui descendent dans le midi, la plupart, ils vont à la fête des loges, après on se retrouve à la foire du Havre, ou à la foire de Rouen, ou voilà, c'est... On se retrouve pas mal. Je fais Rouen, je fais Le Havre. Après, je m'en vais un petit peu vers la Bretagne, à Rennes. Puis juste pour les fêtes de Noël. Et après, on rentre le matériel. C'est remise en état du matériel. Puis voilà. Puis après, on rattaque fin mars. On retourne à Paris à la foire du trône.
En remontant l'allée, quand la musique des auto-tamponneuses baisse un peu, on entend une petite voix fragile. C'est Rolande, à 89 ans, elle vient encore aider sa fille et son petit-fils pour se rappeler sa jeunesse nomade.
C'est pour me distraire un peu, être parmi la jeunesse.
Et vous aimez bien la fête des loges?
Oh oui, ça oui. C'est la fête, voilà. Et il n'y a pas de mauvais clients. Hein. C'est de la belle clientèle. Des familles, oui, des enfants, des grands-parents. Qui venaient quand amener leurs enfants quand ils étaient jeunes, et même eux, quelquefois, montaient.
Une carrière de forain qui commence parfois bientôt, comme pour Simon. Il a 15 ans, mais avec son maître 85, il en paraît 20. Et depuis 2 ans, il s'occupe de son propre stand, en face de celui de ses parents.
Alors, c'est les petits élastiques ronds, ils sont petits, et puis à force de les former, ça fait un collier, un bracelet, on peut faire ce qu'on veut, des bagues, des animaux, ce qu'on veut. Ah, je connais un peu tout le monde, quoi. Tout le monde me connaît un peu. Et puis, je sais pas, on se sent bien ici, non?
Oui.
J'ai été à l'école, j'ai arrêté en 6e, 5e, pardon. Alors, on est obligé, quoi. Parce que je dois faire mon travail, j'ai un travail, donc je dois le faire. Après, le seul truc, c'est que je sais pas vraiment compter, pas vraiment, mais je sais lire et écrire, hein. La base. Ah, je préférais travailler, moi. Comme ça, j'allais pas à l'école, déjà d'une, et je préfère aller au travail.
Donc, après la fête des loges, là, vous partez où?
Alors, moi, je m'en vais à Lille. On est plus dans le nord, mais on reste toujours dans le nord.
Voilà, merci à Emmanuel, Roland et Simon. Vous pourrez les retrouver à la fête des loges jusqu'au 17 août.
Merci à vous, Marine. Rendez-vous demain pour une nouvelle chronique virevoltante et pour une nouvelle grande table d'été. L'émission d'aujourd'hui était organisée, concoctée, mitonnée par une petite compagnie de danseuses et de danseurs ondulants sur les ondes de France Culture, avec bien sûr Corinne Amar, Catherine Donnet, Lola Kahn, Marine Noyen, Claudia Prolongeau et Martin Kenéen. À la réalisation toujours, Michel-Ange Vinti. À la technique aujourd'hui, Jean-Guilain Meige.